Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est déjà dans la première dimanche du Grand Carême, qu'on appelle, comme je crois que vous savez déjà, on l'appelle la dimanche de l'orthodoxie. Peut-être que vous vous demandez pourquoi on appelle cette dimanche la dimanche d'orthodoxie. C'est une question un peu historique qui est très liée des icônes. Dans l'8e siècle, 8e, 9e je crois, les chrétiens ont été persécutés, beaucoup persécutés à cause des icônes, de la part des iconoclastes. C'est quoi un iconoclaste? C'est celui qui dit que l'icône, c'est une chose qui est très semblable avec un idole, donc il ne faut pas se prosterner devant l'icône. C'est ce que l'iconoclaste disait, et malheureusement, plusieurs empereurs romains ont été de cette façon, on était iconoclastes. Ils ont commencé à persécuter les chrétiens de ce jour-là. Donc, si vous savez que le 7e conseil œcuménique qui a eu lieu dans l'8e siècle, il a établi très clair qu'il faut se prosterner devant les icônes. Bon, c'est pas le seul conseil œcuménique qui a décidé ça, 8e, 9e siècle, je ne me souviens pas très bien. Mais c'est clair que c'est décidé qu'il faut se prosterner devant l'icône. Pourquoi? Parce qu'on ne se prosterne pas au bois duquel il est fait l'icône. On ne se prosterne pas devant, les couleurs. On se prosterne devant l'image de celui qui est représenté ici, comme si vous voulez, comme vous auriez une petite photo de celui qui vous aimait, et vous portez avec vous toujours cette photo. Et quand vous regardez cette photo, c'est pas la photo c'est la personne qui est représentée dans cette photo. Pour ça, l'Église a décidé, c'est pas bien sûr le décider, c'est pas le mot très bien choisi, mais a décidé sur le témoignage de peut-être milliards de martyrs qui ont témoigné qu'il faut se prosterner devant l'icône. L'Église a décidé que cette première dimanche de Grand Carême soit dédiée aux icônes, si vous voulez. Parce que, comme vous voyez déjà, on a ici des icônes où on peut représenter toute, presque toute la vie et l'histoire chrétienne. Chaque sainte peut être représentée, chaque fête peut être représentée. Et je répète, quand on se prosterne devant l'icône, on se prosterne devant celui qui est représenté dans cette icône. Donc ça pour la dimanche d'aujourd'hui. La dimanche qui suivra, la deuxième dimanche de Carême, ça sera la dimanche dédiée au Saint Grégoire Palamas, aussi un saint important, entre tous les saints sont importants en fait, mais qui a eu une contribution assez précise pour déterminer les cadres de notre relation avec Dieu, les cadres des prières, de la prière. Et je parlerai un peu sur la prière, parce que devant l'icône, on fait ça, on prie, en fait, devant l'icône. Quand on se prosterne devant l'icône, on fait ça, on prie. On prie la Mère de Dieu, on prie notre Seigneur Jésus-Christ, on prie tous les saints pour nous aider. Donc c'est ça la prière devant une icône. Et je voudrais vous parler un peu de la prière, pas moi, pas avec mes paroles, mais avec les paroles de quelqu'un duquel je vous ai déjà lu quelque chose sur la prière, c'est l'évêque Antoine Blum. Peut-être que parmi vous, vous avez entendu de lui. C'était presque contemporain avec nous. Il est mort, je crois. Il parle très, très belle de la prière. Je voudrais vous lire quelques fragments. Il faut nous attendre à découvrir que le dernier pas de notre relation avec Dieu est un acte de pure adoration face à un mystère dans lequel nous ne pouvons pénétrer. Nous grandissons dans la connaissance de Dieu année après année jusqu'à la fin de notre vie et nous continuerons de le faire durant toute l'éternité sans jamais arriver à ce point où nous pourrions dire que nous connaissons enfin tout ce qui est connaissable de Dieu. Ce processus de découverte graduelle de Dieu nous conduit à nous situer à tout moment en ayant derrière nous notre expérience passée et devant nous le mystère de Dieu connaissable mais encore inconnu. Le peu que nous savons de Dieu nous rend difficile d'en apprendre davantage, car le plus ne peut être simplement ajouté au peu, étant donné que chaque rencontre avec Dieu apporte un changement de perspective tel que ce que nous connaissions avant devient presque faux à la lumière de ce que nous savons après. Ceci est vrai de toute connaissance que nous acquérons. Chaque jour, nous apprenons quelque chose dans le domaine scientifique ou littéraire, mais le savoir que nous avons acquis ne prend d'un sens que parce qu'il nous conduit jusqu'à la frontière au-delà de laquelle il reste encore quelque chose à découvrir. Si nous nous arrêtons pour répéter ce que nous savons déjà, nous perdons notre temps. La première chose à faire, si nous voulons rencontrer le vrai Dieu dans la prière, est ainsi de nous persuader que toute la connaissance précédemment acquise nous a amené à nous tenir devant lui. Tout cela est précieux et utile, mais si nous n'allons pas au-delà, notre connaissance devient évanescente, fantomatique, elle n'a plus de vie réelle. Il s'agit d'un souvenir et l'on ne vit pas de souvenir. Quand nous disons que nous nous tenons devant Dieu, nous pensons toujours que nous sommes ici et que Dieu est là, extérieur à nous. Si nous cherchons Dieu en haut, devant ou autour de nous, nous ne le trouverons pas. Saint Jean Chrysostome disait « Trouvez la porte de la chambre secrète de votre âme et vous découvrirez que c'est la porte du royaume des cieux. » Saint Ephrem le Syrien dit que Dieu, quand il créa l'homme, mit au plus profond de lui tout le royaume des cieux, et que le problème de la vie humaine est de creuser assez profond pour aller jusqu'au trésor caché. C'est pourquoi, pour trouver Dieu, nous devons creuser en quête de cette chambre secrète, de ce lieu où se trouve le royaume de Dieu, au cœur même de notre être, où Dieu et nous pouvons nous rencontrer. Le meilleur outil, celui qui percera tous les obstacles, c'est la prière. Le problème, c'est de prier avec attention, simplement et dans la vérité, sans remplacer le vrai Dieu par un faux Dieu quelconque, par une idole, par un produit de notre imagination et sans chercher à vivre une expérience mystique. En nous concentrant sur ce que nous disons, certains que chaque mot que nous prononçons attend Dieu, nous pouvons utiliser nos propres mots ou ce don plus grand que nous pour exprimer mieux que nous ne le pourrions pas ce que nous éprouvons ou ressentons obscurément en nous. Ce n'est pas par la multiplicité des mots que nous serons entendus de Dieu, mais par leur véracité. Quand nous employons nos propres mots, nous devons parler à Dieu avec précision, sans chercher à faire long ou à faire court, mais à dire vrai. Il y a des moments où les prières sont spontanées et aisées. Il y a d'autres moments où il nous semble que la source s'est tarie. C'est alors qu'il est bon d'utiliser les prières d'autres hommes qui expriment fondamentalement ce que nous croyons. Toutes ces réalités qui ne nous sont pas en ces instants vivifiées par une réaction profonde de notre cœur. Nous devons alors prier dans un double acte de foi, non seulement en Dieu, mais en nous-mêmes, confiant dans cette foi qui s'obscurcit, mais qui fait pourtant partie intégrante de notre être. Il est des moments où nous n'avons nul besoin de mots, ni des nôtres, ni de ceux d'autrui, et nous prions alors en silence. Ce silence parfait est la prière idéale, pourvu cependant que le silence soit réel et non un rêve éveillé. Nous avons très peu d'expérience de ce qui signifie le profond silence du corps et de l'âme. Quand une sérénité absolue comble l'âme, quand une paix totale emplit le corps, quand il n'y a aucune agitation d'aucune sorte et que nous nous tenons devant Dieu, totalement ouverte dans un acte d'adoration. Il peut y avoir des moments où nous nous sentons bien physiquement et mentalement détendus, fatigués des paroles parce que nous en avons déjà trop usé. Nous ne voulons pas nous agiter et nous nous sentons bien dans cet équilibre délicat. Nous sommes là au bord du rêve éveillé. Mais le silence intérieur est une absence de toutes sortes d'agitation de la pensée ou de l'affectivité. Mais c'est une totale vigilance, une ouverture à Dieu. Nous devons garder le silence absolu quand nous le pouvons, mais nous ne devons jamais le laisser dégénérer en simple plaisir. Pour éviter cela, les grands auteurs de l'orthodoxie nous avertissent de ne jamais abandonner complètement les formes normales de la prière, car même ceux qui avaient atteint ce silence de la contemplation jugeaient nécessaire, chaque fois qu'ils étaient en danger de relâchement spirituel, de réintroduire les paroles de la prière jusqu'à ce que la prière eût renouvelé le silence. Les pères grecs mettaient ce silence, qu'ils appelaient ischia, à la fois au point de départ et au point d'aboutissement d'une vie de prière. Le silence est l'état dans lequel toutes les facultés de l'âme et du corps sont complètement en paix, tranquilles et recueillies, concentrées et parfaitement vigilantes, libres de toute agitation. En beaucoup de leurs écrits, le Père utilise l'image de l'étang. Tant qu'il y a des rides à la surface, rien ne peut être correctement réfléchi, ni les arbres, ni le ciel. Quand la surface est tout à fait calme, le ciel se reflète parfaitement comme les arbres de la rive et tout est aussi distinct que dans la réalité. Voilà les deux manières de prier, si vous voulez. La manière quand on prie avec les mots des autres, quand on utilise les prières que les pères de l'Église ont utilisées à leur tour, quand on fait notre prière de matin, de soir, chaque jour, on dit toutes ces prières. Mais il y a aussi la prière, comme vous avez entendu, la prière en silence, quand c'est ce dialogue infinite, je pourrais dire, avec Dieu, quand on laisse tout tomber devant et autour de nous, et on monte vers cette relation, vers cette tension, si vous voulez, avec Dieu, parce qu'en fait, notre relation avec Dieu, c'est une relation de tension. C'est toujours, comme vous avez entendu aujourd'hui dans l'Évangile, c'est celui qui a été appelé par Jésus, Nathanaël, qui avait un peu de doute au commencement, qui disait, c'est qui cet Jésus de Nazareth, c'est un homme de Nazareth, peut sortir quelque chose de bon. Et après, quelque chose s'est passé en lui, on ne sait pas quoi, mais il s'est retourné devant Dieu tout d'un coup, reconnaissant en Dieu la limite qui peut être franchie, qui ne peut pas être franchie, mais dans le même temps qui nous donne la possibilité de nous dépasser nous-mêmes pour toujours pouvoir pas franchir cette limite, si vous voulez. C'est une tension, c'est un aller-retour de chaque jour, de chaque moment, de chaque seconde, si vous voulez, dans cette relation. On croit parfois, on ne croit pas parfois. C'est comme une ligne de médecin, je ne sais pas comment s'appelle ça. Mais c'est une relation vivante, c'est ça qui compte. Notre relation avec Dieu, il faut être en relation vivante, pas en relation mumifiée. Parce que parfois, on arrive à cette façon de se rapporter vers Dieu. Je suis orthodoxe, de nos sens, l'Église, c'est... Non. L'Église, c'est une chose où on vient pour les Pâques, Noël, baptême, mariage, comme ça. Et le reste, Dieu va... Peut-être que ce n'est pas comme ça. Peut-être qu'il faut voir un Dieu en personne, comme une personne humaine. Quand vous aimez, je répète ça, quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas rester comme ça. J'ai fait le café pour mon mari le matin, j'ai fait quelques plats pour lui et ça c'est tout. Ce n'est pas ça une relation d'amour entre l'être humain. Donc il faut toujours rapporter cette relation d'entre nous, cet amour d'entre nous, il faut le rapporter toujours à Dieu. Librement, c'est très important, d'être libre, de se sentir libre devant Dieu. Il faut comprendre chaque mot de la prière que vous disiez chez vous ou ici à l'église. Il faut comprendre. La liturgie, par exemple, ce n'est pas une chose mystique, je ne sais pas comment. Bon, c'est une chose mystique parce que c'est un mystère qui se passe ici. Mais il faut essayer de comprendre ce mystère. Bien sûr, on n'arrivera jamais à comprendre ce qui se passe ici, mais il faut avoir l'intention de toujours pénétrer dans cet mystère. C'est comme dans l'histoire bouddhiste de la petite poupée de sel qui voulait connaître c'est quoi le mer. Et dans un jour, elle est arrivée au bord de la mer et il dit, c'est quoi le mer? Et le mer dit, viens et vois pour voir. Et la petite poupée de sel a commencé à entrer dans le mer et elle a senti que quelque chose, ça ne va pas très bien parce que c'était la mer qui commençait à dissoudre le sel. Bon, ce n'est pas le cas de notre Dieu. Dieu ne nous désoudre pas. Dieu ne veut entièrement comme est. Mais il faut penser un peu à cette histoire parce que il faut se dissoudre un peu devant Dieu. Il faut renoncer un peu à nous-mêmes pour peut-être nous découvrir un peu mieux. C'est la deuxième partie de l'homélie. La troisième, c'est qu'il faut préciser qu'à partir de ce dimanche, la première dimanche du Grand Carême, on fera une autre liturgie qui est presque pareille que la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Donc on fait la première, la deuxième, troisième et cinquième dimanche de Carême, on fait la liturgie de Saint Basile le Grand. Donc j'ai dit que c'est une liturgie presque pareille. C'est quoi qui est différent? C'est l'anaphora liturgique. Je vous ai déjà expliqué c'est quoi l'anaphora. Quand le prêtre commence à dire les prières qui sont en avant de l'épiclèse. Et l'épiclèse, c'est le moment où le prêtre invoque l'Esprit Saint pour venir et pour sanctifier les dons qui sont déjà préparés là-bas. Donc, dans la liturgie de Saint Basile, vous allez entendre aujourd'hui des prières plus longues, plus longues. Et plus belle, bien sûr. C'est une liturgie qui semble beaucoup avec la liturgie de Saint Jean Chrysostome, donc ça ne va poser pas beaucoup de problèmes comme la liturgie des dons présanctifiés a posé un peu vendredi soir pour ceux qui ont été. Donc, peut-être que si je veux sentir la nécessité de vous expliquer, peut-être je veux m'arrêter un peu pendant la liturgie pour vous expliquer. Mais je vous ai dit ça pour voir que c'est quelque chose de différent dans le premier cinq dimanches de Carême. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la grâce de prier comme il faudra. Et pour ceux qui n'ont pas commencé encore le Grand Carême, c'est le moment de commencer, bien sûr. Il n'y a pas encore beaucoup de temps. Que Dieu nous bénisse. Amen.